Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Merci d'être avec nous. 2h du matin en France, 20h ici à New York, Manhattan. Manhattan.
C'est bien dit. Tu vois, la bonne chose de ce séjour, c'est qu'au moins ton niveau d'anglais s'est amélioré.
Non, moi je suis catastrophique.
C'est pas mal.
J'ai un niveau bac ES, terminal.
T'as quand même eu le bac avec ce niveau d'anglais.
Oui, parce qu'heureusement, il y a d'autres matières, figure-toi.
Ah, d'accord.
Alors, okay, t'as compris que sur l'histoire, c'était pas mal.
Ah, je t'ai vu faire un peu de sport, c'était moyen aussi.
Hein. Le sport, ça va quand même. Je me débrouille assez bien pour un sportif amateur. Maxime Chanot est avec moi, bien sûr. On aura plein d'invités. Julien Laurence va nous rejoindre. Et Tolly également, des nuits de l'after sur RMC. Alors, vous êtes nombreux à nous dire, on n'est pas en vidéo sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, on le saura demain en vidéo. Ça va venir, on a quelques réglages à faire techniques puisqu'on a changé de studio. On a quitté le New Jersey pour venir ici à Manhattan, au café Luce, tout près de Times Square. On aura d'autres invités qui vont arriver, bien sûr. Mais d'abord, on va laisser la place à une légende du football français et mondial. Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Coupe UEFA avec l'Inter Milan, coéquipier de Ronaldo Fenomeno, Youri Djorkaeff nous a accordé une longue interview passionnante. On l'a rencontré cet après-midi à son hôtel, Youri Djorkaeff. Il voit beaucoup de matchs sur ce mondial, son deuxième pays, les États-Unis. Et merci à Antoine Varnier qui l'a calé pour RMC. On va l'écouter, vous allez voir. C'est très intéressant, notamment sur l'équipe de France. Sa vision sur Mbappé, l'émergence d'Olysé, le Brésil, très en colère contre le Brésil, lui qui a connu un grand Brésil. En colère aussi contre les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et pas contre Cristiano Ronaldo lui-même. Vraiment, écoutez ce moment-là, décrochez pas. Youri Djorkaeff, spontané et clair et franc. C'est parti, on y va.
RMC, l'afterfoot. Intégrale Coupe du Monde.
On est à New York, à Manhattan, en plein cœur de la ville, avec, je sais pas si ça va lui plaire, une légende du football mondial. Il se marre, Youri Djorkaeff, et c'est avec nous, avec Maxime Chanot. Salut Youri.
Salut, ça va?
Ça va, c'est pas trop pompeux, légende, football mondial? Enfin, pour... Non, nous, c'est de réaliser.
Je pensais que tu disais en plein cœur de Manhattan.
C'est une légende ici ou pas? C'est ta ville?
Ouais, c'est ma ville. Et puis on est dans un endroit aussi un peu particulier. C'est le Waldorf Astoria.
Oui.
La première fois que je suis venu à New York, j'avais 18 ans. J'ai amené mes deux frères ici. On est descendu dans cet hôtel-là. Voilà. Donc c'est assez incroyable.
T'étais où, à Grenoble à l'époque?
J'étais à Grenoble, ouais. Tout à fait. À Grenoble. Et on s'est dit, on vient dans cet hôtel-là parce qu'il y avait eu un film, Le Prince de New York avec...
C'est ça. Eddie Murphy. Eddie Murphy, exactement.
Ouais, c'était le seul hôtel qu'on connaissait. Il y avait deux hôtels. Il y avait le Fontainebleau Hilton à Fontainebleau, à Miami, à Iskerres.
Ouais. Ah ouais.
Et c'est là-dessus.
Attends, dis-moi, t'as dormi ici à 18 ans avec ton salaire de Grenoble?
Ouais.
C'est fort.
C'est bon. Eh ben, en fin de compte, c'est pour ça que je performais à Grenoble, parce qu'à chaque fois qu'on gagnait, il y avait une prime supplémentaire, mais qui faisait plus que mon salaire, parce que mon salaire, c'était 300 francs par mois.
Non.
Ouais.
Okay. Et donc,
tout le salaire est passé dans la nuitée de l'hôtel.
Eh ben, ouais. Ouais, mais ça valait le coup, regarde. Bon, c'était un bon investissement.
Ouais. Ah, j'imagine. Je rappelle qu'après ton immense carrière en Europe, tu as ouvert la voie ici, sur le territoire américain. Tu es le premier joueur à avoir intégré un club de MLS, et à New York ici. D'ailleurs, je pense que tu connais Maxime Chanot. Lui, il peut le relais bien après toi également.
Pas longtemps après.
Pas si longtemps que ça après.
Ouais, tu vois.
Tout à fait. Qu'est-ce qui te reste de ton époque new-yorkaise, justement?
Plein de choses. Je crois que que ce soit New York ou pas New York, je pense que le plus important, c'est comment tu finis ta carrière. Tu peux être n'importe où, dans n'importe quel championnat. Je crois que c'est la manière de finir ta carrière. Moi, ce que j'ai aimé ici, c'est que à New York, il y a personne qui t'attend. Il y a personne qui te prend par la main, qui t'amène à traverser la route. Mais il y a une chose que les Américains aiment, c'est le sport. Ils ont un grand respect pour les sportifs. Ils ont quelque chose de spécial pour les sportifs. Donc, quand t'es sportif aux États-Unis, que tu sois connu ou pas connu, t'es dans le cœur des gens. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était une parfaite transition aussi pour continuer une vie, pour commencer une nouvelle. Et rien mieux que d'être à New York, dans les villes où il y a plein d'opportunités qui se créent si tu sais aussi accepter la ville. Et je pense que New York est une ville particulière. New York est peut-être particulière parce que avant d'être français, avant d'être n'importe quelle nationalité, faut être New-Yorkais. C'est vrai, faut être d'abord New-Yorkais, et après, quand t'es New-Yorkais, tu peux étaler tes origines, tu peux faire ce que tu veux, mais d'abord être New-Yorkais.
T'as passé 14 ans ici.
Ouais.
C'est ça? Tu connais toute la ville?
Tous les corners. Dans les corners, je peux te raconter toutes les histoires qu'il y a eu, tous les petits restaurants, même si ça change souvent, tous les petits délits, tous les petits cafés, tous les Français, où ils sont aussi, tous les coins.
La ville a évolué comme, positivement ou pas, tu dirais?
Il y a eu un vrai l'après Covid. Le Covid a été difficile ici. L'après Covid a été dramatique. Ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que le cannabis est partout. Quand on rentre dans les...
Il faut le dire, on a découvert des nuages de cannabis dans toute la ville.
C'est incroyable. Puis les gens ont une addiction à la drogue qui n'est pas normale, qui n'est pas saine pour une société. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui à New York. Mais j'ai rencontré le maire aussi. On a échangé avec le maire,
Dani. Alors, tu te connaissais évidemment. Il t'a dit quoi quand il t'a vu?
Ah, mais t'es ravi de me rencontrer. Il m'a même demandé de le tirer un penalty. Il a voulu aller dans la cage et il pensait de m'avoir fait un petit penalty. Je lui ai mis une cacahuète et au reste, ouais.
Bah ouais, non.
Ouais, alors fan de foot et d'Arsenal. Ouais, grand fan d'Arsenal. J'aime aussi son dynamisme. Après, il fait certaines choses. C'est vrai que depuis qu'il est à New York, il paraît qu'il y a moins de criminalité. Les derniers maires étaient compliqués.
Chacun défend son bilan aussi.
Chacun défend son bilan. Les derniers maires étaient compliqués, mais plus ou moins les gens sont contents d'avoir un maire dynamique et qui met les mains dans le cambouis, parce qu'à New York, il y a des choses à faire.
Ouais, pas facile. Non, alors moi, je suis très ému, évidemment, d'être là, Youri, parce que bon, tu es à la base, finalement, de cette génération France 98. C'est aussi la raison pour laquelle moi, j'ai commencé le foot, parce que je suis pas si vieux que ça, même si Nico aime bien blaguer un petit peu sur mon âge. T'as été aussi le précurseur pour les joueurs qui sont arrivés en MLS. Je suis arrivé juste après toi, donc finalement, tu m'as un peu ouvert la voie. Moi, j'ai envie de parler vraiment d'un aspect football. Alors toi qui as longtemps connu l'Europe, quand tu arrives en MLS, surtout à cette période-là, comment toi tu juges la Ligue? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui pour moi la MLS a énormément évolué. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est vrai que c'est une Ligue qui part avec énormément de retard. Quand toi t'arrives, est-ce qu'à un moment donné tu regrettes ton choix? Je te parle vraiment purement sportif.
Sincèrement, non, parce que c'était New York, c'était un rêve de gosse. Alors, jouer au football aussi. Donc du coup, j'étais dans les meilleures conditions. Premier déplacement, le siège 25B. Tu sais, les derniers sièges, la tête à les toilettes, la peur des toilettes, la tête tout le temps. Voilà. Et tu portes ton sac, tu fais le check-in, tu pars sur des vols commerciaux. Ils sont horribles. Faut dire qu'ils sont horribles et tout. T'arrives en déplacement, t'as généralement le cheap hotel. Ils donnent une enveloppe avec $20.
C'est ça, c'est le per diem.
Voilà, pour faire ton dîner et ton petit déjeuner. Et à l'entraînement, on s'entraîne au Giant Stadium. On a une heure et demie. Nous, on a s'entraîné au Giant Stadium, d'accord. On a une heure et demie d'entraînement parce que des Giants, ils arrivent et ils veulent tout le stade, même s'il y a qu'un gars qui s'entraîne. Donc c'était assez compliqué. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de mon salaire, je payais à manger à toute l'équipe.
Ah, ça c'est de l'altruisme.
Ouais, il y avait que des super jeunes. J'avais vraiment des jeunes. Tu avais José Altidore, j'avais Mike Bradley, j'avais Mike McGee, j'avais que des petits jeunes, mais top.
Miazga là peut-être aussi.
Qui?
Miazga?
Non, j'avais pas. Non, non.
Arrivé après.
Non, j'avais une super génération et qui était après chaque entraînement, ils étaient avec moi. Ils voulaient apprendre. Donc quand j'ai vu qu'ils vivaient à Troyes et qu'ils mangeaient du Subway ou du McDo tous les jours parce qu'ils n'avaient pas les moyens, j'ai fait venir à manger après l'entraînement. Il y avait à manger pour toute l'équipe. J'ai dit ça, et ça j'ai fait pendant toute la saison.
Voilà. T'as été à la base de ces carrières, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, José Altidore, c'est quand même... Il est devenu une légende américaine. Il a notamment joué à Villarreal. Michael Bradley a aussi joué à la Roma. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, maintenant, Michael Bradley est l'entraîneur des New York Red Bull.
Exactement. Et son papa, qui était Bob Bradley, qui était un grand entraîneur de l'équipe nationale. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, je suis là pour donner mon expérience, pas que sur le terrain, mais aussi en dehors. Donc
c'est beau.
Ouais,
c'est beau.
Et ça s'est bien passé. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir un rôle différent dans un continent différent. Et de vraiment, toi, je commençais à parler de la fin de carrière. Ça m'a aussi aidé à bien finir ma carrière, tu vois. Et bien, quand j'ai raccroché les crampons, sincèrement, j'étais fier d'avoir fait ça. J'ai mis les crampons. Ça, j'ai 58 ans, donc ça fait 20 ans que j'ai raccroché. Il n'y a pas un jour où je dis, je pourrais jouer, j'ai regretté. C'est pas un jour, pas une seconde.
Tu as été au bout.
J'étais au bout, mais je l'ai fait bien et je l'ai fait. Et je pense aussi que cet esprit américain, tu vois, où tout n'était pas parfait, mais dès qu'il y a un truc qui est bon, c'est waouh.
Et c'est valorisé, quoi.
Ouais, c'est valorisé.
C'est valorisé.
Ouais.
Je voulais pas qu'on commence par ta carrière, mais on va le faire parce qu'on est dedans. Après, on parlera de l'équipe de France mondiale, tes favoris, tout ça. Bon, Youri, moi, je suis un peu de cette génération, un peu plus âgé que Maxime. Hein. J'avais 18 ans en 98, évidemment. Avant d'autres, c'était toi. Pour moi, personnellement, je parle de moi un petit peu. Je voulais savoir, toi, dans ta carrière en club, à quel moment tu t'es senti le plus fort ? À l'Inter, forcément, ouais. Ceux qui écoutent diront ça spontanément.
En fin de compte, je me suis toujours senti le plus fort. Mais tu joues pas pour être le plus fort. C'est mon but, c'était pas d'être le plus fort, c'est d'être le meilleur pour moi. Et j'ai toujours donné 1000% que ce soit à Grenoble ou à Strasbourg ou à Monaco après, ensuite ailleurs. Je sais que j'avais quelque chose de plus que les autres.
C'était quoi, tu dirais?
Il y avait du talent, il y avait aussi de l'envie, il y avait aussi
du flair aussi.
Ouais, mais il y avait aussi de la joie. Je crois que j'ai aimé ce que j'ai fait parce que voilà, je prenais plaisir. J'aimais me lever le matin pour aller à l'entraînement. Il y a pas un jour où je dis oh putain, chier. Même quand c'était dur des fois. J'ai pris vraiment du plaisir et je pense aussi des fois on minimise aujourd'hui, mais le fait aussi de tu conduis, t'arrives à l'entraînement, tu vois les joueurs, c'est un bon moment. Tu vois, on arrive à l'entraînement, c'est un super moment. Tu vois, t'es pas encore en train de t'entraîner, tu vas pas te changer, le coach il est pas là encore. Tu bois ton café, tu discutes avec les gars, tout ça. C'est des bons moments, mais c'est les meilleurs moments. Mais sauf que moi, j'ai pas attendu d'être à la retraite pour dire j'ai kiffé. Je kiffais à 20 ans, je kiffais quand j'étais dans le vestiaire. À 15 ans, j'ai commencé à 15 ans et demi. Claude Auroi était entraîneur à Grenoble et il m'a mis dans la section professionnelle. 15 ans et demi, je kiffais déjà. Voilà. Et donc c'était ça c'était vraiment important. Après je savais que j'avais quelque chose de particulier. J'avais aussi une humilité que mon père m'a apprise et que tu peux pas fausser, tu peux pas fausser ton père. Mon père était capitaine de l'équipe de France. Je peux pas dire ah non, aujourd'hui j'ai été bon alors j'étais pas bon. Il y avait une honnêteté des fois qui est douloureuse, hein, qui est pas toujours mais c'était putain, des fois tu voudrais que le mec il dise ouais c'était pas mal aujourd'hui alors que t'es nul quoi. Le fait d'avoir mon père comme ça qui a toujours gardé les pieds sur terre, qui m'a aussi aidé à garder les pieds sur terre et parce que j'en avais besoin aussi, ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi l'envie de partager, je crois que l'envie de partager c'est ce qui nous relie tous à la sortie, l'envie de marquer, de bien défendre, de faire quelque chose de spécial ou juste de suivre un flow qui fait que t'es dedans quoi.
C'est intéressant. Alors moi, je voulais justement faire le parallèle. Tu as parlé de ton père, on le connaît, grand grand joueur. Toi, en tant que joueur, en tel quel, est-ce que tu as senti justement le poids d'être le fils d'eux ? Parce qu'on prend beaucoup l'exemple, par exemple, des fils Zidane. Est-ce que toi, ça t'a plutôt aidé ? Ça t'a plutôt porté préjudice ? Est-ce que ça a été une extra motivation ? Comment tu l'as senti pendant ta carrière ? Et j'imagine surtout au début de ta carrière, parce que
j'ai la même chose avec mon fils. Quand tu commences, il y a eu beaucoup de jalousie. Non, sincèrement, il y a beaucoup de jalousie. J'ai beaucoup de refus parce que j'étais le fils d'eux. Quand t'es en cadet ou en minime et t'as ton père qui est là et qui était un ex-capitaine de l'équipe de France et tu marques deux buts, les gens vont dire, ouais, c'est normal parce que son père était ancien joueur. Donc ils attendent toujours à ce que tu marques 3 buts. Ils attendent toujours à ce que tu fasses quelque chose d'incroyable. Tu peux pas être normal quand t'es le fils de quelqu'un. Et je suis passé par là. Donc j'ai eu la chance d'avoir un super lien, un rapport avec mon père, tu vois. C'est génial. Mais je me dis toujours, si j'avais eu des problèmes avec mon père, ça peut arriver, mais ça aurait été dramatique à vivre. Dramatique à vivre. C'est-à-dire parce que on a toujours fait la référence à ton père, alors que tu le détestes, imagine. C'est... Mais j'en ai pas souffert, j'ai eu la chance de comprendre rapidement que fallait que je fasse avec, j'avais pas le choix. J'aime pas le choix. Voilà. C'est un nom à porter, je l'ai porté fièrement. Ça n'a pas été toujours facile, mais j'avais pas envie non plus, j'avais pas besoin non plus de tuer le père pour exister. Voilà.